Alors, ce bâtiment, c'est un bâtiment qui est extrêmement important puisque c'est une baraque originelle du camp de Beaune-la-Rolande. C'était la baraque numéro 4 du camp.
Il y a eu jusqu'à 20 baraques à Beaune-la-Rolande et 19 baraques au camp de Pithiviers. Vous n'en voyez qu'une partie. Donc, faut vous imaginer que dans son entièreté, c'était 9 fois plus grand. D'accord, ça faisait jusqu'à 30 mètres de long, 6 mètres de large. Ces baraques, elles font 180 mètres carrés. Et lorsque les premières personnes juives arrêtées en France sont internées dans les camps de Pithiviers et Beaune-la-Rolande, ils vont être jusqu'à 200 par baraque. D'accord, ça fait moins d'un mètre carré par personne. Donc là, il faut vous imaginer la promiscuité énorme dans ces camps et la vie de ces hommes avec toujours des gens autour d'eux. Et comment est-ce qu'on fait tenir 200 personnes dans 180 mètres carrés? Vous avez l'explication ici avec ces lits superposés qu'on appelait des chalits à l'époque. Vous en aviez une autre rangée sur votre droite. Vous aviez 30 mètres de lits superposés et au milieu, vous avez l'allée centrale. Sur quoi dormaient les personnes à votre avis?
Sur ce bois-là.
Non, pas directement sur le bois. On mettait autre chose.
Des draps.
Des pierres.
Avec des habits?
Non, pensez à un camp.
De la paille.
Ah, oui, on va mettre de la paille. On va placer de la paille. Et la paille, qu'est-ce qui se passe si on la change pas?
Elle moisit.
Tout à fait, elle va moisir, elle va pourrir. Et donc, en effet, ça va sentir extrêmement mauvais. Faut vous imaginer ces baraques. Vous avez 200 hommes dans 180 mètres carrés avec de la paille en décomposition. Il n'y a pas de douche dans le camp, il n'y a que des lavabos extérieurs. Regardez comment elles sont faites aussi, elles sont en bois, elles sont très mal isolées et elles ne sont pas chauffées durant l'hiver. Donc il fait extrêmement froid dans ces baraques. Et en été, c'est le contraire. Regardez le toit, il est en tôle métallique, donc il fait extrêmement chaud à l'intérieur. Juste, je vous explique l'histoire de cette baraque. Comment est-ce qu'elle est parvenue jusqu'à nous? C'est pas anodin. Donc on est en 1947, 2 ans après la fin de la guerre. C'est quand ils sont la propriété de l'État français et on veut construire autre chose à la place des camps. Les camps sont vides, ils ne sont plus utilisés. Et donc on va vendre aux enchères les baraques et le matériel du camp. Donc plutôt que de détruire les camps, on va vendre aux enchères ces baraques. Qui va bien pouvoir acheter ça à votre avis? Les musées, c'est pas bête, mais nous, on a été créés en 91 et on est les premiers à travailler sur l'histoire de ces camps. Donc en 47, on est que 2 ans après la fin de la guerre, on n'a pas pris conscience de l'importance de ces camps.
C'est pas les Allemands? Parce que pour cacher
leurs crimes? Non, parce que ces camps, c'est des camps français, hein. C'est pas des camps nazis. C'est pas les Allemands. Ça va être acheté par des fermiers, des agriculteurs, des garagistes, des artisans. Il faut penser à un côté pratique. Cette baraque, elle a appartenu après la guerre à un garagiste qui va peindre, qui va réparer les véhicules à l'intérieur. Et là, vous avez une photo sur votre droite. En 2008, le Cercil, on va découvrir cette baraque dans le jardin de ce monsieur. On va prendre contact avec lui. Il va prendre conscience de l'importance de cette baraque et il va nous faire don du bâtiment en 2010. Et voyez, vous avez des photos, on va démonter planche par planche le bâtiment et on va le remonter ici en 2011 quand on va inaugurer le musée. Et on va faire classer le bâtiment monument historique. Donc, c'est-à-dire qu'on va reconnaître officiellement l'importance historique de ce bâtiment pour raconter son histoire. On va rentrer dans le musée.
Allez, venez.